Dernier mercredi de l'été, la Grande Table se penche sur les sorties au cinéma. À 13h30, le duo de réalisateurs Olivier Ducastel et Jacques Martineau viendra nous parler de son film Au Perché en salle à partir d'aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons évoquer un sujet historique et politique sensible, le marché de l'art sous l'occupation. Le mémorial de la Shoah à Paris consacre une exposition aux questions d'aryanisation, de spoliation, de pillage auxquelles ont été confrontés les Juifs de France pendant la guerre. C'est seulement en 1997 qu'un processus de recherche, de provenance et de restitution a réellement été entamé. Celui-ci est toujours en cours et semé d'embûches. Nous allons en parler avec la commissaire Emmanuelle Polak, également auteure d'un livre du même nom, et d'Inès Rothermund-Reinat, chef de projet du programme de recherche Le marché de l'art en France sous l'occupation à l'Institut national d'histoire de l'art. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été. Maëlys Bessery.
Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être quelques mots d'abord sur cette exposition qui en réalité démarre dans les années 30, puisqu'il faut d'abord comprendre l'histoire des avant-gardes et l'histoire des avant-gardes telles que vues en Europe pendant cet entre-deux-guerres pour comprendre ce qui s'est passé ensuite.
Oui, alors c'est un parti pris hein, de l'exposition que de partir de l'histoire du goût et de s'intéresser au marché de l'art des avant-gardes, de voir ce qui se passe dans les années 30 en Allemagne et puis de voir comment eh bien ces critiques des nazis contre les avant-gardes, contre l'art moderne, eh bien va finalement infuser dans la presse antisémite et finalement parvenir en France, infuser dans les esprits. C'est ainsi que je me suis intéressée au marché de l'art des avant-gardes pendant la période de l'occupation.
Alors c'est aussi un rapport d'Hitler aux Beaux-Arts que l'on retrouve. Inès Rothermund-Reinat, quelles sont finalement les grandes questions qui se posent avant-guerre autour de ce marché de l'art contemporain, puisque le goût d'Hitler va plutôt du côté de l'art classique, et en même temps les avant-gardes existent à Paris mais aussi en Allemagne.
Oui, alors tout à fait, comme Emmanuel vient de le dire, dans les années 30, mais en Allemagne ça commence très tôt, à partir de la prise de pouvoir au pouvoir de Hitler en 33, que les avant-gardes sont menacées, les galeries, les peintres avant-gardistes peuvent plus exposer, peuvent plus peindre, c'est très très surveillé. Beaucoup quittent l'Allemagne, il faut quand même pas oublier qu'à partir de 33, l'intelligentsia allemande, les meilleurs écrivains, les meilleurs artistes quittent le pays. Alors pour les arts visuels, plastiques, ça, c'est encore un petit peu contradictoire. C'est-à-dire au début, vous avez un conflit entre la position esthétique d'un Goebbels, par exemple, qui acceptait ou qui était plutôt pro l'expressionnisme allemand, qui considérait comme un courant important de l'art allemand. Et finalement, c'est effectivement la vision d'un certain Rosenberg qui va emporter sur la ligne de conduite, si vous voulez, et donc tout ce qui est la moderne, tout ce qui représente la modernité du XXe siècle est supprimé, et tout ça s'accumule en fait dans la grande exposition dite d'art dégénéré en 1937 à Munich.
Justement, on va s'arrêter sur ce terme qui apparaît sous le terme de Entartekunst dans votre exposition. Emmanuel Polak, qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce terme qui apparaît, terme éminemment politique, lié bien sûr à la propagande nazie, mais terme qui va du coup caractériser le sort de ces œuvres d'art dans cette période d'avant-guerre?
Oui, alors Entartekunst, c'est l'art dégénéré, je pense qu'on est d'accord avec Inès. Et il y a deux expositions qui sont très importantes, celle de Munich de juillet 1937, la première qui est inaugurée par Ziegler, qui est la grande exposition de l'art allemand décriée par les nazis, où sont rassemblées toutes les œuvres proscrites par l'esthétique nazie. Donc ça, c'est déjà très très important. C'est une exposition qui voyagera, qui ira en 1938 à Chemnitz. Et au Mémorial de la Shoah, nous avons la chance de présenter l'affiche de cette exposition. Et en regardant un petit peu cette affiche, eh bien, on s'aperçoit que le terme « Entartekunst » en Allemagne va finalement... il y aura un glissement sémantique et on parlera d'art judéo-bolchévique en France. et dans la presse antisémite qui reprend ces critères.
Alors, d'ailleurs, puis, sur cette affiche apparaît juste derrière la silhouette du masque de l'artiste, finalement, la figure du juif discriminé, dénoncé.
Tout à fait, tout à fait. On a la reprise dans cette affiche, la tête de l'homme nouveau d'Otto Freundlich, qui sera d'ailleurs détruite à la fin de l'exposition en Tarte de Kunst, et qui masque un petit peu, eh bien, un profil complètement caricatural d'un homme juif. Et donc, c'est comme ça qu'on peut voir ce glissement sémantique de l'art dégénéré à l'art judéo-bolchevique. Moi, en France, je parle plutôt de l'art judéo-bolchevique, et donc, on le verra avec les plus grands artistes, notamment Picasso et Matisse, qui sont souvent, surtout Picasso, à qui on impose cette condamnation en lui disant que tout son art, finalement, n'est que Talmud.
Alors, autour de ces questions, Inès Rotermund-Reinhardt, politiques autour de l'art, on va voir finalement qu'il y a aussi le fait du prince, en l'occurrence du Führer, c'est-à-dire les œuvres d'art sont un objet de cristallisation particulier, de montrer justement sa fidélité au Führer, et il va y avoir tout un jeu de cours autour d'Hitler dans le fait de trouver des œuvres d'art qui peuvent lui plaire et à lui offrir.
Oui, alors tout à fait. Donc là, on arrive effectivement dans la période de la guerre et il commence donc le marché de l'art en France, il y a un grand boom. Pourquoi ? Parce que les Allemands veulent tous acheter, ils arrivent avec des grands moyens, les prix explosent et il y a une énorme concurrence entre les différents protagonistes. Donc vous avez effectivement ce projet de Hitler, c'est qui est le projet de construire le plus grand musée du monde à Linz, dans sa ville, c'est pas sa ville natale, mais c'est la ville où il a grandi. Donc il a énormément de collaborateurs, des gens sur place qui achètent pour ce projet du musée de Linz. Et en même temps, ce projet-là est en concurrence avec Göring, qui lui-même est un grand collectionneur, donc pour sa collection personnelle. Et évidemment, comme vous pouvez imaginer, tous les musées allemands qui suivent, qui eux aussi essayent d'acquérir un maximum pour leur collection de leur ville.
Alors il y a aussi des grandes figures, hein, celle de celui qu'on va appeler le Phidias d'Hitler, et ça apparaît notamment dans la presse aussi, hein, ces remarques, c'est Arnaud Brecker qui est présent dans votre exposition aussi, Emmanuel Polak.
Tout à fait, ce que j'ai voulu montrer...
Le grand sculpteur.
Tout à fait. Le sculpteur préféré d'Hitler. Ce que j'ai voulu montrer, c'est comment finalement ces oppositions et cet antagonisme en Allemagne étaient calqués en France. Et comment en France, dans le jardin des Tuileries, on pouvait avoir les deux expositions, avec notamment la grande exposition des œuvres d'Arnaud Brecker en août 1942, où se presse le tout Paris, où Cocteau va déclamer « Oh toi, Brecker, eh bien voilà, le grand artiste ». Et de l'autre côté, vous avez au musée du Jeu de Paume, ce qu'on a beaucoup entendu parler autour du personnage de Rose Valland, vous avez le lieu de stockage des œuvres spoliées, pillage qui a commencé dès l'été 1940 avec l'ambassade d'Allemagne, puis ensuite, Inès vient d'en parler, la rivalité avec différents services et notamment le service de l'ERR, la Einsatzstattrechtsleiter Rosenberg. On a parlé tout à l'heure de Rosenberg, il faut bien mentionner que c'est Alfred Rosenberg, l'idéologue du Troisième Reich, qui prendra la tête d'un état-major tout à fait spécial dédié à la spoliation des œuvres d'art et dont le lieu de stockage est au musée du Jeu de Paume.
Et c'est ce terme de spoliation qui est utilisé ?
Oui, là on peut vraiment parler de spoliation puisqu'il y a tout un processus effectivement qui prend sa base législative à la fois sur les ordonnances allemandes et puis on va le voir sur les lois de Vichy. Ça, c'est véritablement important.
Puisque vous avez évoqué Rose Valland, je vous propose d'écouter l'extrait d'un documentaire L'espionne au tableau, Rose Valland face au pillage nazi.
Le 29 janvier 1942, Rose Valland écrit: une grande offensive de déménagement est prévue pour le début de février. 150 chômeurs ont été retenus à cet effet. Mais je ne sais encore rien des victimes choisies. Peu à peu, elle va comprendre qui sont ses victimes. De célèbres marchands d'art, comme Paul Rosenberg, l'ami de Picasso. Ou de grands collectionneurs, tels le banquier Alphonse Kahn. Mais au fur et à mesure, des familles juives de plus en plus modestes sont visées. Et quand les chefs-d'œuvre auront tous été pillés, on leur prendra aussi tout le reste.
Quelques mots, Inès Rothermond-Reynard, autour de cette figure de Rose Vaillant. Alors, cette figure-là et les différents acteurs de ce marché, ceux qui vont être spoliés. Alors, les galeristes, les artistes et finalement le rôle des acteurs privés et publics, puisque tout le monde va intervenir dans ce marché.
Oui, alors tout à fait. Donc c'est le projet sur lequel nous étions travaillés à l'INHA, donc l'Institut National d'Histoire de l'Art, en coopération avec l'Université Technique de Berlin. Donc actuellement nous sommes deux, donc ma collègue allemande et moi, qui travaillent sur ces questions pour essayer en fait de créer un répertoire des acteurs, donc des figures majeures qui ont animé ce marché. Donc c'est très complexe. Il s'agit pas du tout de créer un répertoire des mauvais collaborateurs. C'est vraiment une tentative historique pour mieux comprendre cette période. Et finalement, on se rend compte que les acteurs aussi du côté français sont très très nombreux. Il y a beaucoup de marchands qui collaborent, qui vendent aux Allemands. Mais il y a aussi énormément de zones grises qui sont très difficiles en fait à comprendre, c'est-à-dire à force de se pencher sur les dossiers. Donc c'est d'abord un grand travail d'archives qui remonte maintenant à la surface parce que beaucoup de documents, on ne pouvait pas les consulter pendant 60-75 ans.
Donc, il y en a qui sont accessibles depuis très peu de temps.
Tout à fait. Alors, il y a eu des exceptions pour notamment des dossiers qui concernent la Deuxième Guerre mondiale. Mais néanmoins, il y a quand même énormément de dossiers, notamment tous les dossiers de ce qu'on appelle l'épuration. En fait, c'était après la libération, les enquêtes sur ces personnes qui étaient accusées en fait d'intelligence avec l'ennemi. Et donc, ça concerne également les marchands. Et tout ça, c'est très complexe. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ces zones grises qui nous intéressent aussi, c'est on n'est pas dans le noir et blanc. Vous avez par exemple à Paris beaucoup plus de souplesse par rapport aux lois allemandes appliquées en Allemagne. Vous avez encore des marchands juifs qui sont actifs, mais qui sont actifs parce qu'ils sont menacés. Je pense à un cas sur lequel on a travaillé quand on a enquêté sur la provenance d'œuvres de la collection du marchand d'art allemand Gurlitt, qui a fait beaucoup parler dans les médias. Donc là, il y avait un certain Lental, Hans ou Jean Lental, qui était... Enfin, on trouvait son nom sur énormément de documents comme un grand vendeur. Et au fur et à mesure de gratter, de comprendre les archives, on s'est rendu compte que c'était un prête-nom. Il s'est donné à ce jeu pour protéger, pour pas être déporté. Finalement, il est déporté, il survit. Et après la guerre, il est inquiété par les Américains qui enquêtent sur ces dossiers-là. Donc, il y a une énorme complexité. Donc, il faut travailler sur les sources. Il faut remonter les sources à la surface. Mais il faut aussi être extrêmement prudent face à ces sources.
Alors, on va voir quand même qu'il va y avoir un crescendo. Et qu'au début de la guerre, finalement, avant même que les lois de spoliation soient votées, il va y avoir, ne serait-ce que la présence de l'antisémitisme va dénigrer une partie de ses œuvres ou la galerie de certains marchands.
Oui, alors Emmanuel, je pense Polak. Que vous pensez à la galerie de Bert Veil.
Bert Veil, qui est la première présentée dans l'exposition.
Exactement, et c'était important de présenter une femme marchande. Il y a assez peu de femmes marchandes, c'était très important. Elle est juive alsacienne, et dès 1903, elle est très très intéressée par les recherches picturales des avant-gardes, et notamment on peut dire qu'elle est une des premières à avoir repéré Picasso et à avoir vendu des œuvres de Picasso. Elle a un goût très sûr. Elle n'est pas une très très grande femme d'affaires. Moi, je ne suis pas du tout la spécialiste de Bert Veil. C'est Marianne Lemorvan, avec qui j'ai travaillé, qui m'a prêté beaucoup d'archives qu'elle a collectées elle-même et que nous présentons dans cette exposition. Et
alors, des archives, des photos,
enfin des catalogues de ces expositions, et puis l'ouvrage original qu'elle a pu écrire dans les années 30, qui s'appelle Pan dans l'œil, avec, c'est une autodidacte, c'est un personnage tout à fait charmant, tout à fait croquignolesque. Elle organise dans sa galerie des bals déguisés. Elle est très très proche de ses artistes. Et lorsque son ouvrage sort, eh bien, vous avez un journal antisémite, le Cahier jaune, qui sera d'ailleurs produit et publié au 21 rue La Boétie, dans les caves de l'ancienne grande galerie de Paul Rosenberg. Et dans ces cahiers, eh bien, de nous expliquer que Berthe Veil, parce qu'elle est juive, n'a aucun sens esthétique, elle n'a absolument aucune possibilité de considérer les beaux-arts. On voit très vite que face à ces accusations, eh bien, la galerie périclite et que Berthe Veil se retrouve dans une situation d'indigence. Et il faut attendre 1946 pour que tous ces artistes eh bien, se souviennent qu'elle a été la première, une des premières à les avoir aidés, à avoir vendu les œuvres, qui vont chacun donner une aquarelle, un dessin, un tableau, et qui vont ainsi, lors d'une vente aux enchères, eh bien, permettre, pouvoir récolter un petit peu d'argent pour lui permettre de vivre jusqu'en 1951, puisqu'on sait qu'elle décède en 1951, vivre dans un confort tout relatif.
Alors, vous avez expliqué à Inès Rothermund-Reynard la complexité de ces affaires-là. La question du vocabulaire est primordiale, hein. Il faut peut-être qu'on fasse la différence entre spoliation, pillage bien sûr expliquer ce processus qui va être celui qui va être le processus majeur, c'est-à-dire le processus d'arianisation de ces galeries. Alors peut-être commencer par pillage et spoliation.
Oui, alors ça serait peut-être plutôt à Emmanuel de parler.
Emmanuel Bollack.
Alors pillage pour moi, alors pour en avoir, vous savez que il y a plusieurs historiens, il y a plusieurs historiens d'art, et c'est toujours très très difficile. Pour moi, je vais vous donner ma vision et je pour en avoir discuté avec Annette Vijorka, grande personne de référence sur ces questions, eh bien, pour moi, le pillage, c'est vraiment le pillage de l'été 1940 que je vois. C'est plutôt du fait de l'armée. C'est plutôt un pillage étatique. On a une armée, on a un pays occupé, et à ce moment-là, s'opèrent des razzias.
Donc là, ils se servent.
Ils se servent. Voilà, c'est ce qu'on observe entre juillet et août et début septembre 1940.
Alors chez les particuliers, dans les galeries, chez les collectionneurs?
Tout de suite, place Vendôme, et on présente une grande photo de la place Vendôme, puisque les antiquaires les plus importants étaient place Vendôme. J'ai pu retrouver des dossiers à la préfecture de police dans lequel je vois dès juillet 1940 eh bien des venues et des rapports faits par un commissaire de police accompagné de deux officiers des autorités occupantes qui vont vérifier ce qu'il se passe, réaliser des inventaires, mettre les scellés sur les portes, et puis une fois que le commissaire français est en train de faire son rapport, les autorités occupantes se servent bien évidemment. Ça, c'est un premier temps. Ensuite, le deuxième temps, c'est vraiment octobre 1940, avec la prise de position et la prise de direction de l'ERR, cet état-major dédié, dont l'idéologue Alfred Rosenberg tire les ficelles depuis Berlin, et qui a une équipe tout à fait dédiée au musée du Jeu de Paume, lieu de stockage des œuvres spoliées. Tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu de ce musée du Jeu de Paume. Il y a deux partitions à voir encore. Il y a les œuvres spoliées qui vont être présentées pour des expositions pour Hermann Göring, le Reichsmarschall, le numéro 2, qui viendra plus de 21 fois au musée du Jeu de Paume se servir. Et puis, il y a un espace qu'on appelle la salle des martyrs, où sont rassemblées les œuvres des avant-gardes, les Picasso, les Matisse, les Dali, ce qui ne doit pas contaminer le bon goût du XVIIIe siècle français, du XVIIe siècle des écoles hollandaises, de la Renaissance. Eh bien, cette salle des martyrs, à part, est considérée là comme un réservoir qui va devenir un moyen d'échange contre des œuvres de facture beaucoup plus classique.
Inès Rothermund-Reynard, ce qui est un paradoxe, c'est qu'on voit que cet art jugé dégénéré, malgré tout, conserve sa valeur, même si on en dévalue la somme. Et finalement, même les dignitaires nazis vont en reconnaître une certaine valeur, puisqu'ils vont tenter ces pillages et ces spoliations. Donc, ce marché est paradoxalement spolié et reconnu.
Oui, alors tout à fait. Et je pense que j'ai essayé de dire tout à l'heure déjà, c'est je pense que les lois étaient beaucoup moins appliqué. Enfin, il y avait plus de liberté quand même sur le marché parisien par rapport à l'Allemagne. Et donc, en fait, à force de regarder les différents individus qui étaient très actifs sur le marché, on se rend compte que beaucoup avaient une double casquette. Je pense par exemple à quelqu'un comme Erhard Köppel, qui était un des grands acheteurs dans une deuxième partie de la guerre pour Linz, pour le musée de Linz. Donc là, on a trouvé des dossiers notamment aux archives de Moscou. Donc parfois, il faut voyager loin pour retrouver les traces. Et on se rend compte qu'il a acheté énormément, il passait par Amsterdam et ensuite à Paris. Et en même temps, à Amsterdam où vit un réfugié Max Beckmann, qui était un peintre allemand moderne, avant-gardiste, et qui avait plus le droit d'exposer, d'exercer son métier en Allemagne. Il protège Beckmann à Amsterdam. Et alors, ce qu'on constate après-guerre, c'est Goepel qui devient en fait le grand spécialiste après la mort de Beckmann. Il va publier le catalogue raisonné de son œuvre, etc. Donc en fait, dans la période après-guerre en histoire de l'art, il est surtout connu en tant qu'auteur, défendeur de cet artiste. Et on a totalement oublié, on ne savait pas pendant très longtemps son rôle qu'il avait en fait majeur sur le marché de l'art pendant l'occupation.
Donc, quels que soient les liens entre la politique et l'art que l'on voit plus qu'évident là, il y avait quelque chose qui survivait quand même de la valeur de ses œuvres.
Oui, oui.
Ce marché en est la preuve, Emmanuel Pollack.
Tout à fait. Il y a la valeur intrinsèque de l'œuvre. Et les connaisseurs, les vrais connaisseurs, savaient véritablement ce que valait l'œuvre avant, ce que valait le travail de l'artiste. Avant, je pense à Picasso, les œuvres de Picasso ont une vraie valeur dans les années 30, très très importante.
Alors ça mérite une explication. Pourquoi est-ce que Picasso, qui n'était pas juif, qui n'avait rien en particulier, qui devait déplaire à première vue au régime nazi, pourquoi est-ce qu'il se retrouve pris dans cette catégorie judéo-bolchevique?
Alors, le cas de Picasso est tout à fait à part, puisque tout d'abord, on sait qu'il reste à Paris, qu'il travaille beaucoup et qu'il ne sera jamais inquiété. Pourquoi n'est-il pas inquiété? Finalement, parce que sa valeur est déjà connue, elle est déjà reconnue. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, moi j'ai étudié beaucoup les œuvres de Picasso sur ce marché de l'art, eh bien, il est vrai que les prix sont assez dévalués. Mais finalement, on trouve que très très peu d'œuvres qui passent sur le marché de l'art. Picasso va garder sa production dans un grand coffre-fort et sera très très peu enclin à vendre sa production. Pendant la guerre, il travaille. Il travaille et il est assez peu inquiété. Il continue. On sait, et on peut peut-être le reprocher, qu'il fréquente certains restaurants bien achalandés, qu'il a du savon, qu'il a du charbon. Ça c'est véritablement. On sait que sa prise de politique sera très importante lors de l'immédiate après-guerre.
Alors ça, on va en parler. Hein, c'est l'occasion d'évoquer justement ces autres galeries qui sont présentées. Alors dans l'exposition, ça va crescendo. Hein. Il y a ce phénomène effectivement d'antisémitisme qui suffit à faire tomber la galerie de Bert Veil. Et puis il y a celle de Pierre Loeb.
Oui, Pierre Loeb, c'est l'aryanisation arrangée. Je pense qu'on a parlé en vocabulaire, on a donné un peu la définition du pillage. Hein. On a rappelé que le pillage était européen. Il faut parler de l'aryanisation. C'est très important.
Alors, l'aryanisation, c'est quand la gestion passe justement du propriétaire à un autre gestionnaire, un administrateur.
Tout à fait. L'aryanisation vient d'un terme allemand, Aryanisieren, qui est de déposséder une famille qui était en possession, une famille juive en possession, pour la mettre entre les mains ariennes. Pour ce faire, il y a un dispositif qui se met en place, à la fois avec les ordonnances allemandes. Dans l'exposition, j'aime à présenter la première ordonnance allemande qui donne une cartographie des biens en propriété des mains juives.
Alors, faut expliquer pourquoi, hein, peut-être, Inès Rothermund-Reinhardt, c'est-à-dire que le cadre juridique allemand intervient très tôt, dès 1940.
Oui, absolument.
Les premières ordonnances interviennent dès le mois de juin ou juillet.
15 juillet 1940, première ordonnance allemande suivie des autres ordonnances allemandes. Et elles seront complétées pour l'aryanisation, qui donc un processus de dépossession. Avec Inès, nous travaillons toutes les deux sur les œuvres d'art, mais il n'y a pas que les biens culturels. Il y a des choses que l'on montre aussi dans l'exposition. Il y a des machines à coudre, il y a des ateliers de cordonniers, il y a
des entreprises en
général. Les entreprises sont aryanisées. Et là, vous voyez que quand l'entreprise est aryanisée et quand les familles sont dépossédées de leurs biens, eh bien, vous allez vers la fragilité d'une famille. Vous l'envoyez en camp d'internement français, puis très vite en déportation et ça finit à l'extermination.
Alors l'histoire de Pierre Loeb.
L'histoire de Pierre Loeb est la suivante. Pierre Loeb, juif alsacien, est invité, et je mets des guillemets, à aryaniser sa galerie. Et il prend la tâche d'un de ses confrères pour essayer d'aryaniser en amont sa galerie. Ce qui est fait, il y a un gentleman agreement qui est passé.
Puis avec un ami, Georges Aubry.
Voilà, oui, tout à fait.
Censé être un ami.
Son confrère. il va donc mettre sa famille à l'abri vers les États-Unis et il est arrêté sur le chemin. Il n'obtient pas le visa pour les États-Unis. Il sera stoppé à La Havane où il trouve refuge auprès de Wilfredo Lam. Puis il va rentrer à Paris dès l'automne 1944 et là se presse d'aller voir son collègue en lui demandant de rentrer en possession de sa galerie, très belle galerie de rue des Beaux-Arts à Paris dans le 6e. Et là, le confrère se montre peu enclin à lui restituer sa galerie. Il faut dire que Pierre Loeb est un grand visionnaire, un très proche des avant-gardes et notamment très proche de Picasso. Il se dirige, il va chez Picasso et il lui raconte son histoire. Picasso décroche son téléphone, appelle Georges Aubry, lui dit « Pierre est revenu ». Pierre reprend la galerie. On voit que la chance de Pierre Loeb est d'avoir pu rentrer en possession de cette galerie parce qu'il y a eu intervention du maître du XXe siècle et que l'on ne pouvait pas contrarier Picasso sans voir sa carrière finie à tout jamais sur le marché de l'art.
Inès Rothermund-Reinhardt, on voit que le travail sur les documents est majeur puisque les galeristes les plus importants, ceux qui ont gardé des traces, ceux qui ont pris des photos, des œuvres, etc., vont être ceux pour qui lorsqu'ils ont survécu ou bien leur famille, va être possible le travail de recherche de provenance qui vont pouvoir prouver aussi l'existence de ces tableaux et leur possession, ce qui va permettre parfois la restitution.
Oui, absolument. Alors ça, c'est la grande différence. Je pense que les grandes familles des marchands avaient leurs inventaires, savaient ce qu'ils avaient. Et donc, après la guerre, il y a quand même ce qu'il faut rappeler sur les 100 000 œuvres qu'on estime volées, spoliées en France. Il y a à peu près 60 000 objets qui reviennent en France, notamment grâce aux notes de Rose Vallant. On n'a pas suffisamment évoqué encore, parce que c'est elle qui a pris des notes en secret au jeu de pommes. Et donc, on avait toutes ces notices qui ont permis la restitution de nombreux objets et œuvres d'art. Alors pour ces familles là, c'est quelque part plus facile parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient, souvent des inventaires, des photos, des descriptions d'œuvres très précises. Mais alors la recherche de provenance qui prend beaucoup plus d'importance, je dirais, depuis une vingtaine d'années, concerne justement à essayer d'enquêter sur l'origine des œuvres d'art et pour des familles plus modestes, pour des familles plus simples, mais qui parfois avaient quand même des œuvres majeures, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en fait, comme vous dites, terriblement, tristement, beaucoup ne sont jamais revenus. Et parfois, ce sont des amis ou des membres proches de la famille qui essaient, après-guerre, de décrire ce qu'il y avait. Et donc, on travaille aujourd'hui avec ces inventaires, parfois pas très fragiles. Par exemple, je me souviens avoir lu un inventaire où on parle d'un très beau dessin de Rodin, encadré en or. Et donc ça, évidemment, ça suffit pas pour identifier une œuvre. Donc la grande difficulté aujourd'hui, je pense, consiste à beaucoup un peu la troisième génération qui se penche sur ces questions, essaye de demande de restitution et souvent c'est pas si évident en fait d'identifier l'œuvre exacte.
Ah, Emmanuel Polak, pourtant on voit que dans un certain nombre de cas il existe des documents, non seulement parce que les lois obligées à aller enregistrer les objets de valeur, donc il doit y avoir aussi des archives. Ça fait public.
Oui, tout à fait. On arrive à un moment historiographique assez important où on voit qu'il y a des fonds d'archives qui s'ouvrent. Moi, je travaille sur ces questions depuis une dizaine d'années et j'ai pu voir des réticences ou des difficultés à obtenir les archives. Je vais donner un exemple très précis sur les archives des commissaires-priseurs. Marché de l'art florissant où l'hôtel Drouot est vraiment le point de convergence. On vend de tout à l'hôtel Drouot et il y a des grands de vente de tableaux et véritablement. Moi, j'aime étudier et analyser. Je fais de la micro-histoire et ce que j'aime, c'est le moment fugace où une collection amassée avec beaucoup d'amour, finalement, est dispersée en 2-3 heures au feu des enchères. Et c'était assez difficile de travailler sur ces questions il y a une dizaine d'années. Maintenant, on y travaille bien mieux. Comment on y travaille? On y travaille tout d'abord sur la gazette de l'hôtel Drouot, où l'INHA a numérisé à la fois les gazettes de l'hôtel Drouot et les catalogues de vente. Donc on a déjà l'annonce de la vente par la Gazette de l'Hôtel Drouot. Puis nous avons les catalogues de vente. Ces catalogues de vente, il y a une très très belle collection à l'INHA qui a été numérisée. Il y a un grand travail qui a été fait et je tiens vraiment à saluer les équipes de la bibliothèque de l'INHA. Il y a également maintenant, ce qui est très important, les archives de certains commissaires-priseurs où nous savons qui achète quoi. Donc vous avez l'annonce de la vente, vous avez le catalogue avec le numéro des lots. Quelquefois, si vous êtes chanceux, vous avez la photographie de l'œuvre. Et puis, vous savez ensuite qui achète l'œuvre. Donc ainsi, vous avez des jalons très, très importants dans ce que nous appelons la recherche de provenance.
Donc c'est toute cette histoire de trajectoire qui permet aussi...
Exactement, ce sont les transferts de propriété et ces trajectoires. Et
en même temps, ces trajectoires, Inès Rothermund-Reynard, elle montre aussi à quel point beaucoup d'acteurs ont été, disons, mêlés à ces histoires-là, acteurs privés ou publics, qui aujourd'hui, justement, se défaussent peut-être parfois devant ces responsabilités-là. En tout cas, il y a encore un silence peut-être qui pèse devant ces questions.
Oui, justement, c'était la raison principale pour nous de monter ce projet de répertoire des acteurs, parce qu'en fait, ce qui existe depuis une vingtaine d'années, c'est énormément de recherches et aussi des sites internet sur des bases de données sur les objets. Les musées font leur travail.
C'est-à-dire des listes qui sont diffusées au musée pour voir s'ils possèdent des tableaux.
Aussi donner les provenances de leur propre collection. Alors que les musées américains, maintenant que vous voulez regarder la provenance d'une œuvre qui est dans une collection américaine publique, enfin d'un grand musée, vous pouvez généralement facilement sur le net retracer l'histoire. Et en Allemagne, c'est très avancé. Il y a des postes de conservateurs qui ont été créés dans différents musées pour justement faire ce travail. Donc on a déjà en France par exemple, il faut citer le site sur les MNR, donc ça c'est les fameux musées, les objets, les travaux, les tableaux.
Les œuvres MNR, musées nationaux récupération.
Donc il y a toujours à peu près 2000 œuvres dans les musées français, donc on ignore la provenance.
Alors c'est comme
donc,
ça qu'on appelle ceux que l'on retrouve dans les musées, des œuvres spoliées qu'on retrouve dans les musées. Il faut expliquer ce terme.
Justement, la provenance, elle est pas connue, donc effectivement, ça peut avoir une histoire de spoliation à la base, mais le travail, il reste à faire. Donc, il y a une nouvelle mission qui vient d'être créée au sein du gouvernement du ministère de la Culture, qui va se pencher sur ces questions. Donc là, il y a déjà un travail en cours, il y a déjà un site qui existe où on peut voir, consulter les informations sur ces œuvres. Et pour revenir à votre question, ce qui manque, à mon avis, pour l'instant, malgré des nombreux travaux individuels, ce qui manque, c'est cette panorama du réseau. Quels étaient les acteurs et comment ces acteurs, effectivement, étaient connectés, interviennent au moment de l'achat et aussi au moment du transfert de l'objet.
Alors, on va voir que l'Hôtel Drault ne sera pas le seul. Il y aura divers places, divers endroits, comme à Nice, notamment, qui fait aussi partie de cette exposition. Peut-être raconter quand même l'histoire, on ne peut pas toutes les faire, mais l'histoire d'un autre galeriste majeur, celle de Paul Rosenberg, grand-père d'Anne Sinclair, qui est un des acteurs majeurs, justement, de cette histoire.
Oui, alors Paul Rosenberg est...
Une des victimes majeures de cette histoire.
Exactement. C'est le plus grand marchand d'art des modernes. Il a un goût très, très sûr. Son frère, Léonce Rosenberg, également s'occupe de ses recherches picturales. Léonce sera plus arrêté sur les cubistes. Or, Paul va, lui, avoir dans son stock des œuvres impressionnistes et des œuvres du grand siècle. Donc, il a la possibilité de satisfaire une clientèle plus bourgeoise.
Donc, il a un mélange d'œuvres du XVIIIe siècle, notamment, et des avant-gardes.
C'est un homme qui a un vrai sens des affaires et qui, voilà.
Emmanuel Pollock, il faut expliquer en quoi c'est une chance, hein, puisqu'à une période où le problème se pose sur les avant-gardes, il a cette autre ressource.
Il a cette autre ressource, absolument. Parce que la clientèle n'est pas tout à fait apte à acheter dans des grands moyens les œuvres, les nouvelles recherches. Et il va avoir sous contrat, dès l'avant-guerre, bien évidemment, à la fois Picasso, à la fois Matisse. Il travaille beaucoup avec Braque et il est avec Gris. Voilà, c'est un des plus grands. Il y a ce qu'on appelle le système Rosenberg qui est dans la galerie de ficher chaque œuvre qui rentre dans cette galerie.
Alors ficher, ça veut dire la photographier, en marquer la provenance, il y a la date.
Les photographies sont prises sur plaques de verre. Les plaques de verre sont à la bibliothèque Kandinsky. Puis il y a un tirage. Ce tirage est collé sur une petite fiche cartonnée. Il y a le numéro d'inventaire. Il y a les dimensions de l'œuvre, le titre de l'œuvre, le nom de l'artiste, bien évidemment, et quelquefois, il y a la provenance. Donc ça, c'est très important parce que ce système Rosenberg est déjà une base pour connaître la collection. Vous dire que...
En quelques mots, ce qui s'est passé pour cette galerie...
Trois points d'impact. Le premier, c'est le 21 rue La Boétie, l'hôtel particulier de Paul Rosenberg, où dès l'été 1940, eh bien, on voit, dès juillet 1940, on voit l'implication de pillages perpétrés par les autorités occupantes. Puis, Paul Rosenberg avait quand même prévu de mettre ses œuvres à l'abri. Il les avait confiées au coffre pour de la Banque de Libourne, pour la Banque pour le commerce national de l'industrie. Il y a 162 œuvres. On sait très précisément ce nombre d'œuvres, puisque lorsque les autorités occupantes ont ouvert le coffre par effraction, le directeur de l'École des Beaux-Arts, M. Rogano, est venu en faire un inventaire et a listé très précisément ces œuvres d'art.
Elles ont été pillées dans le coffre.
Elles ont été, exactement, alors elles ont été spoliées, si je peux me permettre. Elles ont été spoliées dans le coffre et nous travaillons encore. Et nous avons réussi à avoir des choses exceptionnelles, comme lors, par exemple, d'une exposition en 2012 qui se tenait à Beaubourg, où une œuvre était présentée, femme au profil bleu devant la cheminée, qui était dans le coffre de Libourne, pour lequel j'ai essayé d'en faire la traçabilité, en étant persuadée que cette œuvre avait été restituée. Or, elle n'avait pas été restituée. Elle était dans un musée norvégien, au Eni Onstad Kunstcenter. Et le musée, j'ai pu travailler avec le musée avec beaucoup de chance et de joie, à la restitution de cette œuvre à la famille, aux ayants droit de Paul Rosenberg.
Alors, il faut expliquer comment ça se passe, les restitutions, Inès Rotermond-Rémard. La loi est ainsi faite qu'une œuvre d'origine spoliée rend la transaction nulle. Donc, le retour se fait évidemment sans aucune contrepartie, d'où parfois les situations tendues et complexes et la difficulté parfois aussi à fournir des preuves. On peut quand même dire que depuis 1997, il y a eu un grand tournant historiographique qui a accéléré ce processus.
Oui, alors tout à fait. Il y a eu quelques publications majeures. Je pense à Lini Klass, une américaine qui a sorti un premier livre sur ces questions. Après, en France, il y avait Hector Feliciano qui a publié aussi sur ces questions. Il y a des nombreuses publications. Et surtout, je pense que ce qui a vraiment fait bouger les choses, c'est la fameuse conférence de Washington. Donc, on a fêté les 20 ans l'année dernière. Donc, c'était une conférence à laquelle ont participé de plusieurs nombreux États, plus que 40, 44, il me semble, et qui sont engagés, en fait, à mettre la lumière donc sur la provenance de leur collection publique, mais aussi privée. Bon, évidemment, on ne peut pas obliger un privé de rendre public, rendre transparent l'origine de ses œuvres, mais en tout cas, il y a une sorte d'engagement moral à la fois en Europe et aussi aux États-Unis. Et suite à cette conférence de Washington, beaucoup d'États ont créé soit des comités de recherche de provenance ou alors ont facilité la recherche au sein des musées. Ce que je disais par exemple en Allemagne, et ça a été, il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en place pour que les musées fassent leur recherche sur leur propre collection.
Alors on va voir aussi l'importance du rôle des pouvoirs publics hein, et des déclarations politiques. Je vous propose d'écouter la déclaration d'Édouard Philippe lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. C'était le 22 juillet 2018.
Des paroles de la République est ensuite passée aux actes. C'est l'installation en 1997 par le gouvernement d'Alain Juppé de la mission d'étude de Jean Matteoli sur la spoliation des Juifs de France. C'est la création, 2 ans plus tard, par le gouvernement de Lionel Jospin, de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Une commission qui a permis de verser plus de 500 millions d'euros d'indemnités au titre des spoliations matérielles, auxquelles s'ajoutent 53 millions d'euros au titre des spoliations bancaires. Cette commission a aujourd'hui en grande partie rempli son office et la question de son avenir se posera un jour. Mais ce jour n'est pas venu. Il est un domaine dans lequel nous devons faire mieux, celui de la restitution des biens culturels. Vous le savez, dans les collections nationales se trouvent de nombreuses œuvres dont les Juifs ont été spoliés durant l'occupation, des biens que l'État n'est pas encore parvenu à identifier dans leur totalité et encore moins à restituer. Je ne mésestime pas les difficultés concrètes que posent ces opérations, mais nous ne pouvons à l'évidence pas nous satisfaire de cette situation. C'est une question d'honneur, c'est une question de dignité, c'est une question de respect des victimes de ces spoliations, de leur mémoire et de leurs descendants. C'est pourquoi j'ai décidé de nommer la CIVS d'une nouvelle compétence, celle de pouvoir recommander la restitution de ces œuvres ou à défaut d'indemniser les personnes concernées. J'ai également décidé de charger le ministère de la Culture d'instruire directement ces dossiers et de prendre une part beaucoup plus active dans le travail de restitution plutôt que de laisser ce soin aux établissements publics culturels.
Emmanuel Bollack, on voit l'ampleur de la mission et le travail qui reste encore à accomplir.
Oui, alors moi je suis très très optimiste. Je veux dire que on ne pourra pas restituer toutes les œuvres, on n'y arrivera pas. Je voudrais quand même dire...
C'est en ça que vous êtes optimiste ?
Oui, non. Je veux dire que pour vraiment que les auditeurs comprennent bien ce qu'il y a derrière la restitution. La restitution d'un tableau, la restitution d'un dessin, c'est pas un tableau, c'est pas un dessin. Derrière, il y a beaucoup plus, il y a toujours beaucoup plus. J'ai assisté, j'ai pu avoir eu la chance d'assister à des restitutions. On est tous très, très émus. Derrière cette restitution, il y a la... possibilité de redonner à une famille son identité, sa mémoire, des souvenirs familiaux et de passer et surtout de reconnaître les exactions dont elles ont été victimes. Parce que pour moi, ce que je veux dire, c'est que ce pillage, ces spoliations de biens culturels s'inscrivent dans un continuum qui va de la stigmatisation d'une population, son éradication de la vie économique, on passe par son internement en camp français, puis sa déportation en Allemagne et son extermination.
Comme une dernière forme de persécution, à la fois la première et la dernière. D'ailleurs, c'est donné aussi cyclique qu'on retrouve Inès Rothermund-Reinhardt dans ce processus. Là, c'est la queue de la comète de la persécution qui se matérialise dans ces œuvres d'art spoliées ou pillées.
Oui, tout à fait. Et je suis d'accord avec Emmanuel. C'est la restitution, c'est beaucoup plus que la restitution d'une œuvre. C'est rendre l'histoire familiale qui a été détruite en grande partie à des ayants droit. Donc, je pense que ce qui finalement cette chance avec la nouvelle politique, si je puisse dire, c'est que cette volonté politique, c'est d'avoir aussi un côté beaucoup plus proactif. Je pense dans le passé, il y a déjà eu beaucoup de travaux qui ont été faits, mais c'était, on attendait en fait que les familles se manifestent. Donc là, la volonté, c'est d'être beaucoup plus proactif. Et je pense aussi ce qu'on ressent très fort, notamment avec la nouvelle jeune génération, il y a cette volonté de transparence, il y a la volonté
et de rendre
aussi
collectif un problème qui était jugé quasiment individuel.
Tout à fait.
Et peut-être juste en 30 secondes, un dernier mot, un exemple peut-être de restitution et de nouveau travail artistique, celui de Philippe Gronon, en un mot.
Oui, en un mot, dans la dernière salle au mémorial, l'atelier du chercheur de provenance, où j'ai voulu montrer un peu au public comment on fait ces recherches de provenance, combien elles sont passionnantes. J'ai voulu aussi montrer au musée qu'il y avait des restitutions qui n'allaient pas laisser que des cicatrices et qui pouvaient être joyeuses. Et c'est ce qu'on trouve au musée de la Chaux-de-Fonds où finalement la photographie de Philippe Gronon a été prise du verso de l'œuvre. C'est un verso très bavard qui donne beaucoup d'informations sur les étiquettes. Nous travaillons sur ces revers, nous travaillons sur la matérialité de l'œuvre et en lieu et place d'un tableau qui a été restitué à la famille Jaffé, il y a une photo du verso
qui dit des noms, qui dit des dates,
qui dit beaucoup de choses,
dit les cicatrices de l'œuvre.
C'est un reversement un retournement de l'œuvre et une restitution heureuse puisque tout le monde est absolument content de part et d'autre.
Merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui. Je rappelle le nom de l'exposition « Le marché de l'art sous l'occupation ». Je rappelle le nom aussi de l'œuvre éponyme. Et je rappelle qu'elle est accueillie jusqu'au 3 novembre au Mémorial de la Shoah à Paris. I wanna turn those blue lights into strobe lights. Not blue flashing lights, maybe fairy lights. Those blue lights into strobe. Don't you run.
Just pass you by.
Et on écoute Blue Light de Georgia Smith, extrait de l'album Lost and Found. Blue Light, une chanson qui dénonce les violences policières. Georgia Smith est ce soir en concert au festival Open Air de Zurich. Elle sera à Paris dans le cadre du festival Rock en Seine le 24 août prochain. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture. Si vous nous rejoignez, c'est la seconde partie de la Grande Table d'été avec pour invité le duo de réalisateurs Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Ça se passe au 28e étage, 5 individus au perché réunis pour une soirée macabre. 5 victimes de l'amour, le même, celui qui les attend dans la pièce voisine, enfin paraît-il. Olivier Ducastel et Jacques Martineau donnent à voir un huis clos qui pousse les ex à se confesser les uns aux autres, comble de la perversité sur laquelle le film s'interroge. Olivier Ducastel et Jacques Martineau sont aujourd'hui les invités du portrait de la Grande Table d'été. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors peut-être un petit point d'abord sur ce titre, Au Perché. Alors Au Perché, certes le 28e étage, mais pas uniquement.
Pas uniquement.
Non, mais...
Allez-y.
La question Olivier, de savoir qui est le premier qui va
du Castel.
Oui, c'est vrai que c'est beaucoup, enfin dans notre esprit en écrivant le scénario, c'était beaucoup plus sur l'état des personnages, effectivement, l'état de leurs sentiments et leur folie, on va dire, leur folie amoureuse. Et puis après, effectivement, comme ça se prêtait aussi à un côté beaucoup plus terre à terre, si j'ose dire, quand on est au 28e étage, voilà.
Alors ça crée à la fois une situation presque d'ordre théâtral d'ailleurs, Jacques Martineau.
Ah oui, oui, on le revendique, on n'en a pas peur. C'est-à-dire que c'est un film qui est très dialogué, qui est construit sur le dialogue. C'est un huis clos, voilà, donc qui
se passe dans un appartement.
Dans un appartement, on ne bouge pas de là, voilà.
Qui respecte les règles classiques de l'unité de temps et de lieu.
C'est celle du théâtre, hein.
Voilà, celle du théâtre. Voilà. Oui, la différence, c'est que ça n'en est pas, d'ailleurs parce que c'est du cinéma, et puis parce qu'il n'y a pas de pièce de théâtre que nous aurions adapté. C'est un texte que nous avons écrit pour ce film, dans un jeu, je reconnais, un peu amusant, de faux-semblant pour moi, c'est comme s'il y avait une pièce derrière, mais il n'y en a pas. Voilà, amusez-vous avec ça.
Alors vous avez dit comme du théâtre, d'ailleurs du théâtre vous en avez adapté par le passé. D'ailleurs je vous propose d'écouter une archive de Jean-Luc Lagarce.
Le présent du théâtre, j'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais croire que ça se passe là. C'est-à-dire, il y a toujours un côté, je sais pas, je peux pas m'empêcher quand je suis spectateur, et je trouve que les spectateurs qui n'en tiennent pas compte sont pas très justes, on peut pas s'empêcher de voir sur le plateau quelque chose qui a déjà eu lieu, qui est répété, qui a déjà été entendu. J'aime bien le théâtre quand il s'appuie aussi là-dessus. Voilà, qui dit, je vais vous raconter quelque chose que je connais déjà, les acteurs connaissent déjà, voilà. Et les acteurs qui jouent, en sous-entendant qu'ils ne savent pas comment ça va finir, me passionnent pas beaucoup.
Alors là, c'est une archive du 4 septembre 1995, c'était au micro de Lucien Hatoun, sur la question du jeu des acteurs et du temps.
Oui.
Ah bah c'est génial.
C'est magnifique, honnêtement c'est magnifique. Mais quand on connaît le théâtre de Lagarce, on comprend aussi, parce que chez Lagarce, ça peut être un mort qui raconte, enfin c'est
le théâtre. Des histoires de fantômes.
Et toujours une histoire de fantôme ou de quelque chose qui revient. Hein. Il travaille vraiment là-dessus, ou sur le souvenir raconté, les choses que les personnages racontent, et on comprend qu'ils l'ont déjà dit, enfin voilà, c'est clair, oui. Mais c'est une belle source d'inspiration pour nous, oui, il faut le reconnaître, puisque nous on a travaillé sur Lagarce.
Alors, racontez peut-être cette histoire. Vous avez adapté juste la fin du monde.
Oui. C'était ce qu'on appelle une commande. C'est un projet qui se faisait à l'époque quand nous on l'a fait entre France Télévisions et la Comédie Française. Ensuite, la série a continué en partenariat Comédie Française Arte. Mais l'idée, c'était de prendre un texte. La distribution qui avait joué ce texte donc sur le plateau de la Comédie Française, et de l'amener vers le cinéma. C'est-à-dire vraiment ni de faire une captation, pas de faire du théâtre filmé, mais vraiment de faire un film en décor naturel. Et donc nous, on avait filmé donc ce texte de Jean-Luc Lagarce, donc juste à la fin du monde, qui est devenu très connu grâce au film de Xavier Dolan, et avec une très belle distribution de comédiens du français. Et c'est vrai que pour nous, c'était une expérience très enrichissante. C'est la première fois en fait qu'on filmait des mots qu'on n'avait pas écrits, et ça nous a donné un grand sentiment de liberté. Et je pense que d'une certaine façon, même si ensuite on a fait des films qu'on avait écrits nous, on a essayé de retrouver cette forme de peut-être de distance et de rapport au texte écrit dans le travail de répétition avec les acteurs, de faire un peu, de s'approcher de ces sensations qu'on avait eues en travaillant le texte de Lagarce.
C'est-à-dire, je m'arrête deux secondes sur ce que vous venez de dire. Filmer des mots qu'on n'avait pas écrits. Donc on filme des mots déjà. Et en plus, qu'on n'a pas écrit. Ça demande deux, trois explicitations.
Non, mais là, je crois que. Oui, non, vraiment, mais on va pas s'en cacher, ce film. Tout le monde a compris. C'est un film dans lequel on filme la parole beaucoup. Après.
Alors, pas uniquement. Il y a cet appartement qui est un lieu quand même légèrement anxiogène, hein, qui fonctionne un peu sur lui-même. Il a beau être très beau. Il a beau être au 28e étage. Il a beau avoir de très belle couleur un peu techno de par ses lumières. On est au 28e étage et un accident est toujours possible.
Oui, oui. Bah je pense que la nature anxiogène du lieu, elle est liée à deux choses. Elle est liée peut-être à la hauteur, effectivement, puis c'est la nuit. Donc, même si on a un extérieur, c'est un mur noir quand même auquel on se pose. Et puis, elle est liée au fait qu'il y a une pièce aveugle dans laquelle il y a cet homme possiblement enfermé, dans lequel il se passe des choses qu'on ignore.
Alors là, c'est un fantôme de la garce qui est caché peut-être dans cette chambre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On se dit, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'il y a un fantôme? Est-ce que c'est une histoire de fantôme? Je ne vous demande pas de spoiler le film, je demande juste si en termes d'inspiration, cette idée de l'esprit...
Alors, ce que disait Jacques tout à l'heure aussi dans la façon dont on travaille et dans le dialogue entre nous, c'est que je crois en fait que le film en fait permet aussi aux spectateurs de dialoguer avec chacun de nous, et donc effectivement on n'avait pas exactement la même théorie en fait sur l'homme de la chambre.
L'un et l'autre ?
Oui, et en fait pendant le tournage, on a effectivement, et en collaboration et en complicité avec les acteurs, essayé de valider en fait que la théorie de l'un et de l'autre reste tout le temps possible et accessible aux spectateurs.
On a le droit de les connaître, ces théories.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans la chambre ou il n'y a personne dans la chambre. Et évidemment, après, il y a toute la variation. C'est-à-dire on peut penser pendant un certain temps qu'il y a quelqu'un, puis à un moment se dire qu'il n'y a personne. Mais on peut aussi penser, et certains spectateurs nous l'ont dit, que dès que le film commence, ils pensent que la personne est morte, par exemple. Enfin, mais en fait, le film ne vous donnera aucune réponse par rapport à ça. Les réponses ne peuvent être que très individuel. Chaque spectateur, en fait, va soit trouver une réponse, soit ne pas avoir envie d'avoir de réponse à cette question. On n'a pas encore énormément présenté le film et fait de rencontres, mais on a aussi entendu des spectateurs qui nous disaient « Oh là là, mais nous, on ne veut pas savoir. Ce qui nous a plu, c'est de nous poser des questions. »
Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le point de vue est décalé. C'est-à-dire que ce qui est décalé, c'est qu'on ne s'intéresse pas à l'individu, on va dire, pour ne pas donner de diagnostic précis, manipulateur, en tout cas, qui a fait souffrir ces cinq ex. Alors, cinq ex, quatre garçons et une fille.
Oui.
Voilà.
Oui.
C'était pas prévu au départ.
C'était pas tout à fait prévu au départ, mais on va pas revenir sur cette histoire parce que à la fin, et même si au début j'ai été un peu...
Non mais ça change beaucoup de choses quand même en termes d'atmosphère. Hein, c'était énormément. Un film de garçon au départ, ça ne l'est plus.
Ouais, si on peut y revenir sans raconter les circonstances, dire ce que ça nous a amené effectivement.
Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire.
Ah pardon.
C'était ça. C'est que...
Jacques Martineau.
L'histoire de comment nous y sommes arrivés n'est pas intéressante. C'était une proposition plutôt d'Olivier à laquelle j'ai un tout petit peu résisté. Et à la fin, moi je suis ravi parce qu'en effet, je trouve que ça a apporté quelque chose. D'abord parce que Manika qui joue le rôle est incroyable, Manika Auxir, et que ça, je sais pas, ça effectivement ouvre quelque chose du film. Alors c'est pas, il faut voir le film pour voir pourquoi sa présence est tout à fait justifiée. Donc moi je suis vraiment ravi du résultat, même en termes de jeu, de présence physique et puis de sens, hein, de ce que ça a pu apporter. Mais moi j'aime beaucoup votre théorie du fantôme. Hein. Ben non, mais parce que du coup, elle concilie nos deux théories, parce que le fantôme, c'est une présence absente, voilà.
Et, comme la radio, d'ailleurs.
Comme la radio, mais que ce soit le fantôme de Lagarce, je sais pas, mais pourquoi pas, oui.
En tout cas, on va écouter quelques extraits, quand même.
C'est sympa, cette sensation de vertige. Ça finit par passer ?
Non. Si je regarde vers le bas, j'éprouve toujours comme une sorte de peur.
Oh, peur, c'est un peu beaucoup. Plus à un sentiment de légèreté.
Oh, mais il fait nuit, là, c'est moins impressionnant.
Vous penchez pas trop, quand même, hein ?
Pourquoi t'as le vertige ?
Je sais pas, mais ça me fout un peu la trouille de vous voir tous comme ça, c'est tout.
Moi, c'est tout ce vide qui m'a attiré. Quand j'ai visité l'appart et que j'ai vu ça, ça m'a emballé. Alors, la vue, la tour Eiffel, le Sacré-Cœur, c'est sympa, hein, ça impressionne, mais... C'est surtout le vide qui m'a plu. Du ciel et rien d'autre. Et quand tu regardes vers le bas, de la profondeur. Le soir, parfois, dans mon lit, j'ai l'impression d'être perché en haut d'un arbre.
La tour bouge, hein ?
Ah, non, quand même pas. Ah, c'est une sensation absurde, je suis d'accord, mais bien réelle, je vous jure. comme si j'étais plus léger, comme si je flottais.
Olivier Ducastel, alors une autre théorie, puisqu'on est au 28e étage, on est quand même sur un balcon, alors peut-être encore un peu du théâtre, Juliette en haut du balcon, mais Roméo n'est pas en dessous. Il est derrière, peut-être, dans une pièce.
Peut-être. Mais non, mais comme vous avez choisi un extrait dans lequel on entend beaucoup François Nambeau, qui joue Louis dans le film, et qui jouait, répétait et avait joué ou a joué après Le Pays lointain, qui est la réécriture de Juste la fin du monde, que Jean-Luc Lagarce a réécrit donc à la toute fin de sa vie. Il y a vraiment...
Ça
boucle beaucoup la boucle. Et c'est vrai que François Nambeau jouait Hugo dans Théo Hugo dans le même bateau. Donc c'est un acteur avec lequel on avait déjà travaillé.
Expliquer que c'était votre film de 2016, oui. Théo Hugo dans le même bateau. Merci. Qui racontait l'histoire de deux des comédiens qui sont présents aussi dans ce film-là.
Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose, je pense, dans l'inspiration de Haut-Perché, qui est lié aussi à la personnalité des acteurs. C'est-à-dire que c'est quand même un film qu'on a écrit pour des acteurs amis, on va dire. Et je pense que c'est pas non plus complètement neutre, en fait, dans le processus de rêverie autour du film. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas pareil, effectivement, quand on écrit, en sachant déjà pour qui on écrit.
Alors, la question d'un film éventuellement Jacques Martineau poreux, c'est-à-dire dans lequel les cinq ex représentent quelque chose de cet amour qui les a détruits. Ils ont d'ailleurs l'impression de s'être métamorphosés, d'être devenus un peu lui, ou peut-être que ils sont chacun une des facettes du personnage. En tout cas, il y a cette histoire de multiples identités. Peut-être que c'est la même chose entre vous, vos acteurs et vos personnages.
Oula.
Un film pour eux, il y a une contamination, des abîmes.
Faire un film, c'est se poser des questions. Alors, c'est se poser des questions sur le monde, je sais pas, sur ses personnages, sur nous-mêmes, sur notre activité. Enfin bon, et donc vous avez raison, c'est-à-dire le film, il reflète aussi quelque chose, des rapports que nous avons avec les comédiens, du rapport que nous avons avec Jean-Luc Lagarce. Et je suis très content que vous en parliez parce que évidemment, il me hante comme un fantôme. Quand vous avez travaillé sur un texte de Lagarce, soit vous êtes paralysé, soit vous décidez qu'il va falloir sauter du 28e étage et essayer aussi. Parce que
alors là, il y a la langue, la question de la langue, elle est très forte.
Mais parce que c'est tellement éblouissant chez Lagarce qu'on
cette langue qui tourne.
Voilà, mais qui tourne et qui, comme chez Lagarce, moi c'est une leçon, mais je fais pas du Lagarce, que je sais pas écrire comme lui. Mais une langue qui est à la fois très vaine, parce que Lagarce, les gens parlent beaucoup, et c'est au fond en creusant quelque chose de vide qu'ils arrivent à tout d'un coup trouver du plein. Voilà, alors c'est risqué, je suis d'accord, mais je trouve ça tellement beau chez lui, je me dis que ça c'est quelque chose que je voudrais essayer de toucher aussi.
C'est un peu l'idée de cette réunion quand même, des ex qui se retrouvent, qui parlent, on ne sait pas trop, d'ailleurs qui se confient plus ou moins, d'ailleurs peut-être qu'ils mentent, on ne sait pas trop, mais en tout cas il y a l'idée d'une forme de catharsis par le vide.
Oui, tout à l'heure, effectivement, le constat plutôt, c'est que se rencontrer et se dire des choses, effectivement, nous, en tous les cas, on s'est raconté que on mettait ces personnages en présence pour qu'ils se fassent du bien et d'une certaine façon qu'ils nous fassent du bien. Et en espérant, comme quand on fait une comédie, c'est-à-dire qu'on essaye d'écrire des choses qui nous font rire en espérant qu'elles vont faire rire les spectateurs, là on espérait que cette thérapie, on va dire, que le film pouvait être un peu pour nous, ça pouvait aussi être des éléments effectivement d'apaisement pour les spectateurs.
La thérapie, c'est se remettre d'un amour malheureux qui peut-être s'est répété, c'est ce qu'on comprend dans l'histoire. Oui. Peut-être un amour qui s'est répété, c'est une rencontre,
oui,
un personnage manipulateur.
Je crois que c'est un des possibles scénarios de la rencontre avec, alors ne lui donnons pas donc de, mais avec
le diagnostic,
disons, non, voilà, de diagnostic, mais disons avec une personne méchante et manipulatrice, et parfois effectivement pour échapper à ce manipulateur, on se jette dans les bras d'un autre.
Manipulateur, bien sûr.
Voilà. Et oui, bien sûr.
Alors autour de cette question-là revient aussi un vocabulaire. On retrouve des questions qui sont aussi les questions de Lagarce et qui sont aussi les questions qui traversent vos inspirations, c'est-à-dire parler de l'homosexualité masculine, parler aussi de ce monde de la nuit que vous évoquez. Alors évoqué comme boîte à cul dans le film, revient.
C'est un terme très employé dans la communauté.
Jacques Martineau. Et en même temps, ce retour sur les insultes aussi. Est-ce qu'on dit, on dit pas putain, on dit pas enculé. Donc ce vocabulaire-là est à sa place aussi dans le film. Donc ces thématiques qui reviennent.
Oui, elles reviennent, mais après, d'abord, elles m'intéressent, et puis, elles reviennent aussi pour les mettre en question, pour y réfléchir, parce que même sur la question du vocabulaire au début, la scène est censée être quand même drôle. On est tous persuadés que c'est important effectivement, d'employer des mots qui sont pas injurieux, mais en même temps, il y a des moments où travailleuses du sexe, ça nous fait rire dans certaines circonstances, surtout quand il s'agit de transformer une insulte. Voilà. Mais même si je sais que c'est pas bien de dire putain et que j'essaye de ne pas le dire. Voilà. Parce que je trouve ça pas bien. Mais de temps en temps, je le fais. Et on le fait tous. Voilà. Oui, oui, bah, c'est des thématiques, oui, qui sont, je pense pas qu'on tourne en rond. J'ai l'impression qu'on avance.
Ah, moi. J'ai pas dit que vous tourniez en rond. J'ai dit que c'était lié.
Moi, j'y pense, mais qu'effectivement, à chaque fois, on essaye de revenir, d'avancer, de changer, de se reposer des questions, de les reprendre différemment.
Il n'est vraiment plus question du sida qui a traversé plusieurs de vos films, Olivier Ducastel.
Et non.
Et oui, c'est pas la première fois parce que dans un film précédent qui s'appelle L'arbre à la forêt, qui est autour de la mémoire de la déportation homosexuelle, effectivement, il n'était pas question de sida.
Mais pour des raisons de date.
Voilà, pour des raisons de date. Mais oui, c'est, je pense que avec le film dont on parlait tout à l'heure, donc avec Théo Hugo dans le même bateau, on a un peu eu le sentiment, effectivement, de, pas de refermer complètement un dossier, mais voilà.
C'était le centre de l'histoire, il faut le dire, mais c'était le centre de l'histoire tel que dans les années 2016.
Voilà, oui, c'était le centre. C'est un film qu'on pourrait plus exactement faire aujourd'hui, puisque effectivement les choses ont changé. Enfin, mais c'est, donc voilà, donc du coup, là effectivement, en tous les cas, ça n'est plus, ça n'est pas la préoccupation des personnages. De toute façon, on n'est pas certain qu'ils aient eu une vie sexuelle très épanouie avec ce garçon.
Alors ça, c'est une... la vraie question aussi, et c'est une question liée à l'imaginaire du film, c'est tout ce hors-champ finalement que traite le film, en tout cas qu'il évince aussi d'une certaine manière. Il y a la question du récit et des fantasmes. Alors je vous propose d'écouter cet extrait.
C'est difficile hein, de ne pas s'imaginer ce qu'ils font, ce qu'ils font. J'essaie de pas.
Tu sais, ça me travaille depuis tout à l'heure, depuis que t'en as parlé, mais je crois que j'imagine rien du tout. C'est bizarre, hein. Vous êtes tous rentrés, moi pas, et pourtant, je me suis pas posé la question. J'ai pas une seule image en tête, rien. Je visualise même pas, j'anticipe pas, mais je sais pas si je vais rentrer.
Personne ne te pousse à y aller, hein.
Non, bien sûr que non, et en même temps, un peu malgré tout. C'est comme le saut à l'élastique. Quand tu fais ça avec des copains, t'as pas envie, mais tu le fais parce que les autres l'ont fait. Si ça se trouve, dans le groupe, personne n'a envie, mais tout le monde le fait parce que les autres l'ont fait ou vont le faire. C'est un truc d'oppression. Une oppression consentie, une oppression réelle. Vous aviez envie, vous ?
De sauter, non. D'entrer, ouais.
Je me suis pas posé la question, j'y suis allé, c'est tout.
Je me suis fié à un signe.
Ah, t'es réellement superstitieux, alors ?
Non, je t'ai dit que non. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit que je devais y aller.
Oui, c'est pire, t'es un illuminé, toi, t'entends des voix.
Toi, vous êtes trop con, on peut rien vous confier, hein. Si on peut pas se dire les choses là, pourquoi on est là ?
Non mais personne t'est obligé à dire la vérité. Même au confessionnal, tu dis pas la vérité. Tu parles, voilà, c'est tout, ça te fait du bien.
Attends, moi j'ai été sincère, hein. C'est important d'être sincère. Si t'as raconté n'importe quoi, c'est dégueulasse.
Non mais j'ai pas dit ça, je dis juste que je vois pas la différence. Corps vrai ou faux, c'est que des mots.
Alors, petite présentation des personnages, et maintenant, on écoute le récit des fantasmes.
Voilà.
Mais c'est pas minable, ça, c'est mignon.
Et puis c'est sympa. Un jour, on sera tous trop vieux, on sera bien content de t'aider à assouvir tes fantasmes.
Ouais, non, mais c'est un fantasme, et en vrai, ça me dégoûte assez.
Mais quand tu t'imagines la scène, ça te fait bander.
Ah ouais ?
Bon, bah, ça te dégoûte pas.
Ah si.
Non, mais ok, d'accord, mais quand tu y penses à froid, c'est comme moi, l'idée de croquer l'oreille d'un mec, je trouve ça dégueulasse. Sauf quand je fantasme.
Bah non, non, ça me dégoûte tout court.
Mais on peut pas être dégoûté par son fantasme, ça a pas de sens.
Bah si.
Tu bandes tout en étant dégoûté.
Mais toi, tu bandes bien alors que t'es ridicule avec ta cagoule sur la tête.
Non, mais tu mélanges tout, là. Le fantasme, il est absurde, ridicule ou violent seulement quand t'es pas dedans. Et quand t'es dedans, il est juste... C'est hyper excitant.
Mais qu'est-ce que c'est, toi ? T'as déjà boulotté un mec ?
Bah, non, mais d'autres trucs.
Genre quoi ?
Je sais pas, j'imagine boire de la pisse ou bouffer de la merde, tu vois, des trucs dégueulasses. Quand t'es pas dedans. Bah, genre une éjaculation faciale, c'est dégueu à froid.
C'est une détraquée, quoi.
On avait dit qu'on jugeait pas.
Mais j'ai pas jugé, là. Non, c'est un pur constat.
Bah si, détraquée, c'est un jugement, ouais.
À quoi ? J'ai un gage ?
Non, ouais, c'est bon, je m'en fous, c'est pas grave. Bon, je vais chercher le fromage. J'espère qu'il y a des poissons.
Quelle transition, Jacques Martineau. Alors, on voit là que, justement, la question, c'est la complexité du désir et la différence entre le fantasme et le passage à l'acte. On avait le sentiment que, dans le film précédent, notamment déjà évoqué, Théo et Hugo, on était plutôt dans le passage à l'acte, à l'écran en tout cas. Il y avait 20 minutes de début de film, de backroom, enfin de...
Oui, d'orgie. Oui.
D'orgie, justement, très montré, très représenté. Et là, c'est l'inverse. Film chaste.
Le film est chaste, en tout cas, à l'image.
À l'image.
En parole, apparemment pas, vu ce que vous nous avez fait entendre.
Absolument.
Mais c'est amusant parce que en nous faisant, vous nous faites réécouter ce passage qui m'amuse beaucoup. J'avoue, je me suis beaucoup amusé à l'écrire et à tourner. C'était très, très drôle. Je me dis qu'il y a peut-être un lien, évidemment, avec Théo Hugo aussi. Nous avons représenté le fantasme, nous avons représenté la sexualité, etc. Et la question se pose. Quand je représente le fantasme, effectivement, il perd de sa force du réel. Hein, parce que dans le réel, je peux faire des choses terribles, enfin, ou sales, ou je sais pas, enfin bref. Et donc, c'est une vraie question qu'on se pose au cinéma. Comment représenter la sexualité, comment presser ces choses-là? On l'a fait dans Théo Hugo. On a bien vu aussi dans les réactions parfois du public que c'est pas si simple que ça de faire accepter ce genre d'image. Peut-être qu'en fait, la réflexion que développe ici le personnage, elle vient de là aussi. De dire, bah oui, mais tu vois, le fantasme, il y a deux pendants du fantasme. Il y a quelque chose qui est sale. Et quand on en parle, ça peut dégoûter. Mais quand on est dans l'acte, il y est. Mais le cinéma, c'est pas de l'acte. Le cinéma, c'est de la représentation.
Alors, tout ce film-là, il joue sur cette retenue aussi, hein, qui se fait d'ailleurs. Il y a cette idée d'un temps réel. C'est-à-dire que le temps de, pas tout à fait réel, mais où on prépare le repas, pendant lequel on mange, etc. Avec cette tension latente peut-être d'un pacte passé entre eux dont on ne connaît pas tout à fait les règles.
Oui,
confier sans vraiment dire.
Oui, alors
tout ce qui peut leur faire du bien, c'est ça.
Je pense que le film, de ce point de vue-là, livre assez vite ses clés, on va dire, et donc très vite on comprend en fait que on ne sait pas comment ces gens se sont rencontrés, mais on comprend en tous les cas qu'ils ont effectivement établi un certain nombre de règles communes pour passer cette soirée ensemble, et quand certains seraient prêts à déroger un peu aux règles, effectivement, il y en a toujours un pour les rappeler. C'est des règles assez simples, mais voilà. Il y a clairement des choses effectivement qu'ils ont décidé de ne pas faire ou de ne pas se dire, et voilà, de d'être ensemble, d'avoir ce moment effectivement d'intimité avec leur bourreau, on va dire, mais du coup voilà, c'était vraiment c'était important pour nous qu'il y ait ce pacte entre eux, parce que c'est aussi une sorte de pacte que le film du coup passe avec le spectateur.
Alors, avec cette question du temps réel, qui rejoint un peu la question de l'attente, Jacques Martineau, peut-être qu'ils attendent Godot, en fait. Hein.
Bah oui,
on ne sait pas.
Vous pouvez y aller, toutes les références théâtrales sont bienvenues. On ne sait pas ce qu'ils attendent. Moi, je suis d'accord. Enfin, après, temps réel, oui et non, parce qu'il y a des ellipses, hein, mais chaque scène, c'est le temps d'une nuit, et chaque scène est traitée en temps réel. Ça, c'est vrai, il n'y a pas d'ellipse dans les scènes. Et je crois que c'était important. C'est pas le même temps réel que dans Théo Hugo, qui était vraiment, alors lui, 1h30 de suivi, parce que, effectivement, c'est aussi le temps de l'attente, hein, et comment on va combler l'attente, qu'est-ce qu'on attend. Mais je sais, pour moi, ils savent même pas exactement ce qu'ils attendent. Enfin, si, on comprend qu'ils attendent une libération, mais est-ce qu'elle arrive vraiment? Et le film se termine, bon ben, on attend, quoi. C'est-à-dire,
bah, c'est surtout qu'on sait pas qui finalement est contaminé. Est-ce que celui qui aime ce type de personne est lui-même pris dans une sorte d'agressivité, de méchanceté, pour éviter tous les mots que vous voulez éviter, Olivier Ducastel, ou est-ce que finalement la méchanceté est extérieure, quoi, ou est-ce qu'elle est intérieure?
Ah, le film, enfin, je crois qu'une des hypothèses tout à fait tenables, c'est qu'effectivement cette dangerosité
est en nous,
et que la contamination est très possible. Il y a un personnage qui l'exprime plus clairement, c'est le personnage de Nathan, mais parce qu'en fait on est aussi parti de cette idée que chacun de ces personnages, en fait, la distance qui les sépare de leur histoire avec cet homme est différente. Certains, l'histoire est plus proche que d'autres, et donc évidemment ils ont justement une forme de distance avec ce qu'ils ont vécu, et ils sont pas du tout dans le même état. Et en fait, c'est ça qui nous intéressait aussi, c'est-à-dire que certains, en fait, on va dire, se voient quelques années en arrière ou quelques mois en arrière en regardant les autres, et certains peuvent aussi se voir dans un futur proche et se dire, ah ben quand même, je vais m'en sortir. Voilà, c'était ça l'idée. Mais c'est vrai que tout à l'heure, vous évoquiez la possibilité que ces cinq personnages ne soient qu'un seul. C'est aussi une chose à laquelle on a pensé.
Et que le bourreau soit le miroir?
Oui.
Oh, pour moi, il y a un miroir dans la chambre, sans doute. Oui, bien sûr.
Ah non, il n'y a pas de miroir dans la chambre.
Ouais, on n'est pas d'accord. Oui, non, c'est pas Feng Shui, les miroirs dans la chambre. Non,
mais de toute façon, on ne la voit pas, la chambre.
Non, là, on ne la voit pas. Donc, ouais, justement, c'est notre réceptacle, la fantasme. On y met ce qu'on veut. Mais je crois que une des choses qu'il découvre, hein, ce que vous disiez, pour moi, les personnages, c'est effectivement que ce monstre, c'est eux, c'est le miroir, qu'il y a quelque chose. Et pour ça, ils s'en approchent, mais ils osent pas sauter dedans, et le film n'y va pas non plus. Moi, je voulais pas d'un jeu de massacre final où ils se seraient entre-dévorés comme s'ils avaient été...
Même si c'est évoqué, hein, quand même, on sent que le risque perle un peu. Dernière question, très très rapidement. Oui. Est-ce que derrière ce film, où effectivement il y a la présence féminine de Véronica, où finalement les questions sont un peu universalisées? Est-ce qu'il y avait cette volonté justement de sortir de sujets parfois traitant l'histoire d'une minorité avec cette culture-là et ces lieux liés à l'homosexualité? Est-ce qu'il y avait une volonté à la fois d'y être et d'élargir à une forme d'universalité, Jacques?
Oui, je le pose pas comme ça, mais clairement, pour moi, le film n'est pas un film gay au sens où il n'est pas sur un sujet gay. On a mis en scène des personnages homosexuels, bah, parce que c'est un peu ce que nous faisons, c'est notre milieu, voilà.
Et pas que?
Non, et pas que, mais ils sont, voilà, je me sens à l'aise avec ça, voilà. Et puis, pas grand monde le fait, donc si on le fait pas, qui le fera? Mais pour moi, le sujet n'a rien à voir avec l'homosexualité. C'est un sujet qui a à voir avec l'amour et le désir, voilà.
Donc il y a une évolution qui est liée à votre cinéma. Ou pas du tout?
Mais bon, je sais pas, Jeune Garçon Formidable était déjà...
Non, mais même si, ouvert, si même dans des films très gays comme Drôle de Félix, qui est... C'est vrai que nous, on a toujours eu le sentiment, en racontant une histoire d'amour entre deux garçons, qu'on racontait une histoire d'amour d'abord. Et que le film était accessible, que tout le monde pouvait s'y retrouver. Et d'ailleurs, même sur Théo Hugo, qui est une histoire d'amour entre deux garçons, on a eu... Bon, c'est pas un énorme... Enfin, il n'y a pas un public hyper large qui allait voir le film, mais il n'y a pas que des gays qui ont vu le film. Et on a eu des très beaux retours d'hommes hétérosexuels ou de femmes qui nous disaient qu'ils étaient reconnus dans les personnages, dans les relations, ou même dans le lieu. Donc, voilà, c'est vrai qu'on part jamais de l'idée que c'est réservé...
Non, bien sûr.
Le film pour les gays. Non, mais c'est important de le dire parce que c'est vrai que
c'est pas du tout l'objet de la question.
Non, j'ai bien entendu de votre part.
Attention, parce que la radio se fait aussi en temps réel et il va falloir rendre cette antenne. Oui. Merci. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.
C'est nous, merci beaucoup.
Votre film Au Perché sort en salle aujourd'hui. Allez donc le voir. Demain, ce sera une nouvelle grande table d'été. Je vous rappelle, cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site de France Culture.